Vous êtes sur RTL.
Place à l'info, RTL Soir, Vincent Derosier, Marion Calais, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, vos deux heures d'info. Jusqu'à 20h, un œil sur la route des vacances et l'autre vers le ciel. Après la guerre, l'après l'Ukraine, la guerre de l'espace, Moscou menace de s'en prendre à des satellites américains et c'est tout notre quotidien qui, en cascade, pourrait être bouleversé. Communication, internet, météo, Xavier Pascaux, le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et l'invité de RTL Soir à 18h15. Dans l'actualité aussi ce soir, Vincent.
De plus en plus d'appels de Français en détresse dans des centres anti-poison parce qu'ils ont avalé de l'essence. À suivre également, mais qui est vraiment Lucas, le meurtrier de la jeune mère de famille? On va à Brive dans quelques instants pour tenter de comprendre son coup de folie. Enfin, Lefto et Insomniac, c'est votre nuit. France-Italie, quart de finale du mondial de rugby féminin, c'est cette nuit.
Après le journal, la brigade RTL, changement de ce week-end, changement de pneus mardi sur la route aussi de certains départements où passe à l'hiver. Et s'il n'y aura pas d'amende tout de suite, prudence quand même, vous l'entendrez. À jusqu'à 20h également, les dessous de l'actu, vie ma vie de magistrat, des moyens peut-être, mais un quotidien toujours compliqué. À partir de 18h40, on va refaire nos régions avec vous, Vincent, 20 minutes d'actu au plus près de chez vous.
Avec une entreprise de Cholet qui, pour pouvoir recruter, bichonne ses salariés, mais aussi les radars de la Discorde en Alsace pour suivre les oiseaux migrateurs. Au menu également, accrochez-vous, des tripes à la mode de Caen et notre expatrié de la semaine qui a quitté Marseille pour Dublin.
À 19h15, ils refont la France. Le regard des correspondants de la presse étrangère sur l'actu hexagonale, autour d'Anaïs Bouton. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir.
La tendance?
On passe à l'heure d'hiver avec un climat printanier. On ne s'y retrouve pas, hein, c'est compliqué. Mais ça continue ce week-end.
Allez, on vous retrouve tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Marion Calais, Vincent Derosier.
Et voilà une conséquence inattendue de la crise des carburants. Les intoxications se multiplient.
Et c'est loin d'être anecdotique. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Depuis le début de la crise des carburants, le nombre de coups de fil vers les centres anti-poison a été multiplié par 5 après des siphonnages ratés.
Oui, avec d'habitude une vingtaine d'intoxications par mois, les centres anti-poison en ont recensé une bonne centaine suite à des siphonnages. Faire passer de l'essence de sa tondeuse à sa voiture par exemple. Et c'est sans compter sur ceux qui n'appellent pas ces fameux centres anti-poison. La plupart de ces intoxications se sont déroulées entre le 9 et le 18 octobre, en pleine pénurie de carburant, explique l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dominique Vaudovard, médecin au centre antipoison de Paris, explique les conséquences de ces intoxications.
Ça peut donner, dans un premier temps notamment, un mauvais goût dans la bouche, puis des troubles digestifs comme des nausées, et enfin, dans les jours qui viennent, une atteinte pulmonaire qui peut survenir dans les jours qui suivent.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en cas d'ingestion de carburant, il ne faut pas se faire vomir ni boire beaucoup. Il faut se rincer la bouche à l'eau et contacter le centre antipoison et rester très vigilant pendant au moins 3 jours.
Merci Arnaud Touche. Donc on n'avale pas de carburant et...
on se fait pas vomir.
Et on se fait pas vomir.
RTL Soir.
Lucas, 21 ans, a donc passé sa première nuit en prison. Il a avoué le meurtre de Justine Vérac après une soirée en boîte de nuit à Brive.
Le jeune homme a craqué face à l'accumulation de preuves accablantes. Devant les policiers, il a reconnu le meurtre, mais pas le viol de la jeune mère de famille. Maxime Lévy, vous avez pu rencontrer son avocat aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend un peu mieux comment ce jeune homme a pu en arriver là ?
Eh bien, pas vraiment pour le moment. Le jeune ouvrier agricole, bien inséré dans son village, n'a pas expliqué son geste. Il a seulement, vous l'avez dit, reconnu le meurtre de Justine Vérac. Alors, un mobile mystérieux, même pour son avocat, maître Michel Labrousse, qui connaît pourtant bien le jeune homme, car il le défend dans une autre affaire qui n'est pas encore jugée, l'incendie d'une grange agricole. Voici comment il le décrit.
J'ai rencontré un jeune homme cultivé, intelligent, mesuré, posé, calme, un individu normal, avec une existence simple. L'on dit aujourd'hui, mais il aurait un double visage. Au fond de lui, il y aurait un autre personnage. Moi, en tout état de cause, de ce que je sais, c'est que je ne connais que le jeune homme que je viens de vous décrire. Et donc, vous comprenez que je suis, comme tout le monde, intéressé de savoir qu'est-ce qui a pu se passer dans cette soirée sortie de discothèque et sur fond d'alcool. L'instruction va nous l'apprendre.
Alors, est-ce que la drogue ou l'alcool potentiellement consommé pendant cette soirée aurait pu modifier le comportement de Lucas ? Son avocat attend les prochaines expertises psychologiques.
Merci Maxime Lévy pour ces informations. Vous êtes notre envoyé spécial à Brive.
Pour lutter contre les feux de forêt gigantesques, les pompiers vont enfin avoir des Canadair tout neufs. Emmanuel Macron l'a annoncé aujourd'hui à l'Elysée.
410 hectares sont partis en fumée en Haute-Corse ces derniers jours, un mois d'octobre où tous les records de chaleur devraient être battus. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Le président a parlé ce matin d'une saison en enfer et pour ne pas la revivre, il a promis de donner plus de moyens pour lutter contre ces incendies.
Oui, parce que l'exception risque de devenir la règle. Ces étés meurtriers sont amenés à se multiplier. Il faut en traiter les origines, notamment le réchauffement, mais aussi les conséquences. Donc déjà, il y aura plus de Canadair. Actuellement, la France en a 12. Progressivement, ce nombre sera porté à 16 d'ici la fin du quinquennat. Les pompiers en espéraient au moins une vingtaine, mais leur patron, Grégory Allione, préfère voir le Canadair à moitié plein.
Il y a des arbitrages nécessairement, mais en tous les cas, ça n'a pas été fait dans un huis clos gouvernemental ou présidentiel. Non, il y a eu la consultation de l'ensemble de celles et ceux qui sont et qui font la sécurité civile du quotidien. Et il y a une vraie belle trajectoire avec un renforcement des moyens.
Nouveaux Canadair, mais aussi nouveaux hélicoptères, bombardiers d'eau, avec également un plan pour faciliter la vie des pompiers volontaires et pour mieux indemniser leurs entreprises, avec un débroussaillage renforcé dans les forêts et avec une annonce un peu marquante. Emmanuel Macron, qui n'explique pas exactement comment il va y arriver, veut planter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Il y a du boulot.
Merci William Galibert du service politique de RTL.
En politique, c'est une règle universelle, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler.
Et pourtant, parfois, certains l'oublient, cette règle. Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, en a fait l'amère expérience à l'Assemblée nationale en faisant une belle boulette sur le salaire des assistantes maternelles. Écoutez.
L'assistante maternelle, elle gagne en moyenne 1 SMIC. Par enfant gardé. Donc c'est erroné de dire qu'une assistante maternelle, 3 SMIC en moyenne. Oui monsieur, 3 SMIC. Comment ?
Chers collègues.
C'est 1/3 de SMIC fois 3 par moyenne. Donc ça fait 1 SMIC effectivement, pardon.
J'ai dit une bêtise. Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, qui s'est ensuite excusé.
Allez, vous ne bougez pas. Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL et on prendra notamment des nouvelles de nos bleus du rugby. Les joueuses de l'équipe de France en quart de finale du Mondial la nuit prochaine face à l'Italie. Ce sera à 5h30 du matin.
Marion Calais,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
Marion Calais,
RTL Soir.
RTL 18h09, la suite du journal de Vincent Derosier. Et après les activistes dans les musées, voici les activistes sur l'autoroute. Et en ce jour de départ, ça risque de bouchonner. Hein.
Ils ont déjà fait parler d'eux en aspergeant de soupe des toiles de maître dans les musées, en arrêtant une étape du Tour de France cet été ou en s'attachant à un filet sur un court de tennis à Roland-Garros. Cette fois-ci, pour alerter les Français sur le réchauffement climatique et pour réclamer des travaux de rénovation, les activistes de dernière rénovation, c'est leur nom, s'en prennent aux automobilistes. Vous êtes sur l'autoroute A6 Simon Marseille.
Oui, tout à fait. Alors vous devez entendre derrière moi un concert de klaxons. Là, en fait, juste devant moi, des automobilistes descendus de leur voiture sont en train d'essayer de déloger des militants de dernière rénovation, un collectif écologiste hein, qui lutte pour un plan de rénovation énergétique en France. Et voilà, hein, là, des altercations entre les automobilistes et les militants qui reviennent sur place à chaque fois. On les décale sur le côté et puis ils reviennent. Des motos qui tentent de passer sur les côtés et qui parviennent à se faufiler entre les militants. Il y a un camion actuellement juste devant 3 militants, bras levés, qui tentent de passer, mais qui a beaucoup de mal pour le moment.
Merci Simon Marseille en direct de l'autoroute A6. De plus en plus de Français battent leur animal de compagnie. Les mauvais traitements envers les chiens et les chats ont augmenté de 30% ces 5 dernières années. 12 000 infractions ont été enregistrées en France cette année par la police et la gendarmerie.
Ils sont en première ligne pour aider les Français les plus défavorisés. Les Restos du Cœur voient de plus en plus de monde affluer dans leur centre.
En cause, l'inflation, plus 6,2% en un an et la hausse des prix de l'énergie bien sûr, à tel point que désormais, les factures du quotidien sont prises en charge dans les critères d'admission. Reportage de Franck Hanson à Wascal, près de Lille.
Les bénévoles ont toujours le sourire en distribuant leurs yaourts, boîtes de conserve ou fruits. De quoi tenir quelques jours pour Jean-Marie, un ancien couvreur qui touche 900 euros de retraite.
C'est très difficile quand même pour joindre les deux bouts. Hein. Heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'on nous aidait parce que sinon on n'y aurait pas du tout. Hein. Avec tous les factures et tout qu'on a à payer maintenant, parce qu'il y a plus en plus de monde, alors on a de moins en moins. Il faut partager, bah ouais, c'est normal.
Parmi ces bénéficiaires, Valérie, mère de famille isolée, est venue avec deux de ses filles. Elle se sent assommée par ces factures d'énergie.
Mon logement est entre guillemets, c'est un gouffre. Surtout le gaz. C'est pas que je vais pas travailler, c'est que je suis bloquée avec mes deux petites. Quand je fais les courses, un petit peu, c'est pour le mois. Je vais même plus à Idle, c'est trop cher pour moi. J'ai plus de voiture, donc je peux pas aller dans les autres associations, ça dépend un peu.
Face à l'augmentation de ces coûts de la vie, les conditions d'admission au Resto du Cœur sont élargies, confirme Christian Despierres, le responsable du centre de Wasca.
En tout cas, pour l'aide alimentaire, nous sommes beaucoup plus vigilants sur les charges, l'énergie, les assurances, les voitures, toutes les factures du quotidien, chose qui n'était pas moins prise en compte, en tout cas, les années précédentes.
La campagne d'hiver reprendra le 22 novembre.
Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord.
Un rendez-vous, c'est cette nuit, 5h30. Bon, va falloir se lever un peu tôt. Le mondial féminin de rugby en Nouvelle-Zélande avec le quart de finale des Bleus. Hein, la France face à l'Italie.
Mais oui, il y a un petit peu de décalage horaire avec la Nouvelle-Zélande. Jean-Michel Rascol, vous allez donc passer une nuit blanche pour RTL. Est-ce que l'équipe de France a des chances d'aller au bout?
Oui, et il faut donc passer ce quart de finale, un match éliminatoire qui se dispute à Whangarei, la ville maori la plus au nord de la Nouvelle-Zélande. C'est la quatrième fois que Françaises et Italiennes sont opposées cette année, et petit caillou dans la chaussette de ces dames, ce sont les Transalpines qui ont remporté la dernière confrontation 26-19, juste avant de s'envoler pour Auckland. Le regard de Gaëlle Hermé, capitaine de ces Bleus à l'autre bout du monde.
Bah, je pense qu'on a juste hâte d'être sur le terrain, de pouvoir jouer, parce que voilà, on sait forcément que c'est un match particulier, parce que soit tu passes, soit ça casse entre guillemets, donc il y a peut-être un petit peu ce côté revanche, mais c'est pas notre axe prioritaire. Notre axe prioritaire, c'est ce quart de finale face à cette équipe-là, et pas de se dire c'est l'Italie, on a perdu contre elle en match de préparation. Mais on a vraiment envie de savourer ce match qui arrive.
À savourer donc sans modération à partir de 5h30 la nuit prochaine. Il sera 16h30 sur place. L'autre quart de finale du jour opposant les Black Ferns, c'est la marque des Néo-Zélandaises, tenantes du titre, aux Galloises. La balle à l'aile, la vie est belle aussi avec ces dames.
Et on met son réveil donc. Merci Jean-Michel Rascol.
Allez les petites. Du tennis, Vincent, une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne, c'est que Gaël, mon fils, est papa depuis un mois. La mauvaise, c'est qu'il va avoir le temps de donner des biberons car il est forfait pour le Masters 1000 de Bercy qui débute lundi. Le numéro 1 français a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il se sentait limité dans ses déplacements. Un enfant et un divorce, Marion, c'est un couple emblématique qui se sépare. Tom Brady, le quarterback américain superstar, et la top modèle brésilienne Gisele Bündchen vont divorcer. Les deux riches célébrités sont mariés depuis 13 ans quand même et ils ont eu ensemble deux beaux enfants.
Voilà, la planète People pleure ce soir ce divorce et ce couple magnifique. Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30. La météo, Valérie Quintin, toujours de la douceur ce week-end.
Toujours, ça continue. 14 degrés à Alençon au réveil demain matin, 16 degrés à Paris comme à Toulouse. Un ciel généralement bien dégagé, ce sera le cas toute la journée des Alpes à la Méditerranée. On aura un soleil voilé sur le reste du pays et peut-être quand même une petite ondée sur la pointe bretonne. Rien de plus, les températures dans l'après-midi, 21 au Havre, 24 à Paris et Mulhouse, 25 au Mans, 26 à Bastia, 27 degrés à Agen.
C'est plus de la douceur, là, c'est de la chaleur en fait.
Ah ben 27, oui. Ouais. Ah, surtout que c'est à l'ombre.
L'heure d'hiver ce week-end,
oui.
Mais toujours le printemps,
c'est ça,
dans l'air. À tout à l'heure, Valérie.
La brigade RTL soir.
Ah bah tiens, justement, l'heure d'hiver aussi sur les routes. La brigade RTL avec vous, Christophe Bourroux, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, à partir de mardi 1er novembre, obligation d'avoir, d'équiper sa voiture de pneus d'hiver. On va peut-être d'abord rappeler pour ceux qui l'auraient oublié, les régions concernées.
Alors, cet équipement obligatoire sera obligatoire donc sur toutes les routes qui sont en zone montagne. Cela va du Cantal à la Haute-Loire, en passant par la Lozère et la Savoie. Au total, 34 départements sont soumis à cette obligation. Avec des nuances, ce sont en réalité les préfets qui décident. Ainsi, au sein d'un même département, cela peut varier, comme dans le Var, où seulement 28 communes sont impliquées.
Donc obligation, mais on l'a appris aujourd'hui, pas de sanctions, en tout cas jusqu'à la fin de l'année.
Oui, comme l'année dernière, pas encore de sanctions. Les forces de l'ordre feront encore de la pédagogie. Ce n'est pas une mesure répressive, mais bien de sécurité, souligne le ministère des Transports, car théoriquement, vous risquez une amende de 135 euros.
Pas de sanctions, mais... quand même, c'est ce que vous nous dites ce soir, Christophe, mieux vaut être prudent.
Et oui, prudence, car si dans les prochaines semaines, il n'y aura pas d'amende à la clé, en revanche, en cas d'accident sur route enneigée, votre responsabilité civile, voire pénale, peut être engagée, soulignent les avocats spécialisés, et votre assureur risque de ne pas couvrir tous les frais si vous n'êtes pas équipé. Et puis attention, même si vous n'êtes que de passage dans ces régions, il faudra respecter la règle. Bon, rassurez-vous, pas besoin d'avoir quatre pneus hiver dès mardi. Sur surtout vu les températures actuelles, oui, comme l'a rappelé Valérie Quintin, hein. Des chaînes et des chaussettes à neige dans votre coffre font aussi l'affaire. Dans ce cas, vous serez aussi en conformité avec cette mesure qui s'achèvera le 31 mars prochain.
Voilà, pneus hiver ou donc équipement dans la voiture.
Exactement.
C'est déjà suffisant. Brigade RTL, signé Christophe Bourou. Merci. RTL Soir se poursuit dans un instant avec la Russie qui entend faire de l'espace un nouveau terrain de guerre. L'invité de RTL Soir juste après ça.
RTL Soir,
Marion Calais.
Marion Calais,
l'invité d'RTL Soir.
À 18h19, après la guerre de haute intensité, la guerre de l'espace promise par Moscou. Bonsoir Xavier Pascaud.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de l'espace, et je voulais revenir avec vous sur cette menace brandie cette semaine par un responsable du ministère russe des Affaires étrangères qui en gros expliquait que les satellites utilisés par les Occidentaux pour aider l'Ukraine pourraient devenir des cibles légitimes. Précisément, Xavier Pascaud, de quel type de satellite on parle ?
Voilà, je pense que l'allusion est claire. C'est, on parle de ce responsable diplomatique russe parle des satellites Starlink, qui sont donc les satellites du fameux Elon Musk,
dont on parle beaucoup,
par SpaceX, dont on parle beaucoup pour tout un tas de raisons, et qui effectivement aujourd'hui constitue le réseau qu'utilisent les Ukrainiens en fait pour communiquer. Donc évidemment, les Russes voient ça comme une ressource qui a des conséquences militaires, finalement. Donc la question, alors, ils ont fait ça au détour d'un communiqué plus large, en fait. Ils ont un peu jeté ça un peu dans le débat, au passage, j'allais dire. Ça pose plein de questions. C'est d'abord, ce serait une première, hein, qu'on attaque des satellites d'un autre pays. On a fait des tests anti-satellites, mais en général sur ses propres satellites, pour montrer qu'on a les moyens de casser des satellites. Et puis, ça reste des satellites civils, ce ne sont pas des satellites militaires d'un pays strictement en guerre,
qui n'est
pas impliqué dans la guerre. Donc là, ce serait une sorte de casus belli qui sans doute dérogerait à pas mal de textes internationaux à ce stade.
Et la Russie, elle serait capable de cibler précisément les satellites qui sont utilisés pour l'Ukraine, parce qu'il y a quoi, plus de 5000 satellites au-dessus de nos têtes. C'est pas un peu au petit bonheur la chance et non, on risque de toucher des satellites qui nous alimentent pour la météo, Internet.
Il y a plusieurs problèmes. D'abord, la constellation, alors à nouveau, les Russes n'ont pas cité Starlink, mais on a tout ça à l'esprit. C'est déjà, la constellation en elle-même, c'est plus de 3500 satellites aujourd'hui, puisque Musk a le projet d'en mettre plusieurs milliers, etc. Et donc, pour empêcher le système de fonctionner, il faut tuer beaucoup de satellites. Donc ça veut dire employer beaucoup de missiles, le cas échéant, et ça pose déjà problème. Alors d'ailleurs, les militaires en général, américains notamment, mais pas seulement, disent vouloir se reposer de plus en plus sur des structures distribuées comme ça, qui permettent d'être plus résistants finalement.
C'est-à-dire structures distribuées.
Ben voilà, avec, au lieu de habituellement, on utilise un seul satellite pour faire des télécommunications. On le mettait en orbite géostationnaire au-dessus d'un pays et on utilisait ce relais. Désormais, c'est différent. On utilise toujours ça, mais on utilise aussi des satellites beaucoup plus bas qui défilent autour de la Terre et qui, en fait, se passent les messages les uns aux autres, en quelque sorte. Mmh. Et donc, pour affecter le système, c'est pas seulement un satellite qu'il faut tuer, c'est des milliers. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que ça intéresse les militaires. Les cibles sont moins vulnérables, si vous voulez.
Mais cibler un satellite, ça veut dire forcément envoyer un missile sur ce satellite ?
Alors aujourd'hui, les seuls tests qui ont eu lieu, qui sont des tests qui ont ciblé des satellites, effectivement ont utilisé des missiles qui étaient au sol, qui vont dans l'espace et explosent, vont en fait entrer en collision avec le satellite. Alors il y a d'autres moyens, évidemment, on parle de, par exemple, de moyens laser, de choses comme ça. C'est déjà beaucoup plus technologique, ça ne concerne pas nécessairement les satellites de télécommunication, plutôt les satellites d'observation de la Terre, on les aveugle un peu. Et puis il y a des moyens qui seraient beaucoup plus massifs, mais là beaucoup plus, sans doute, qui nous projetteraient dans une situation conflictuelle très compliquée. Ce serait l'utilisation d'armes nucléaires en orbite. Ça s'est déjà fait. On a déjà fait des expérimentations dans les années 60, les années de guerre froide, pour voir les effets que produirait l'explosion d'une bombe atomique en orbite sur l'électronique locale. Aujourd'hui, on sait bien que si on allait vers de telles extrémités, on serait dans une situation conflictuelle mondiale très importante. Donc, on a le sentiment que ce coup de, on va dire, de com diplomatique qui est fait à ce moment-là par les Russes, c'est aussi pour voilà, faire monter un peu la pression. Maintenant, voir quelle est la conséquence vraiment militaire, ça c'est beaucoup plus compliqué.
Mais il y a quand même des précédents de la part de la Russie, c'est-à-dire que l'an dernier, la Russie avait détruit, grâce à un tir de missile justement, un de ses anciens satellites inactifs depuis plusieurs années. Là, pour le coup, c'est les débris qui avaient menacé notamment la station spatiale internationale et d'autres satellites. Il y a eu aussi, au moment de l'invasion russe en Ukraine, un piratage d'un réseau de satellites. En fait, la Russie est en train de s'entraîner, de tester.
Alors oui, la Russie a testé. Elle avait testé dans les années 60 déjà. Enfin, pendant la guerre froide, il se passait beaucoup de choses. On a aujourd'hui la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Inde qui sont des pays qui ont testé ça récemment. Alors, à nouveau, tuer un seul satellite, c'est une chose. En tuer 4000, c'en est une autre. Et là, il faut vraiment avoir beaucoup de matériel. En revanche, effectivement, aujourd'hui, tous les pays considèrent que l'espace fait partie des dispositifs militaires et qu'il faut avoir des moyens, peut-être pas de détruire, mais de gêner, de perturber. Et le brouillage, par exemple, en fait, c'est ce qui est le plus efficace pour gêner l'utilisation des réseaux de communication. Donc ça, ça existe aujourd'hui. Sur tous les conflits, sur tous les théâtres de conflits, on a des systèmes qui sont dédiés au brouillage de l'électronique, des communications, etc. Il y a de fortes chances. Il y a aussi des attaques cyber qu'on voit de plus en plus hein, sur les systèmes spatiaux. Envoyer des virus informatiques ou des choses comme ça vont perturber le système. Donc on est plus dans la perturbation, d'autant plus que si on crée des débris, eh bien en fait tout le monde en paye le prix, puisque si on casse un satellite physiquement, on va multiplier les débris qui eux-mêmes vont devenir autant de balles, de projectiles qui vont casser d'autres satellites. Donc celui qui crée l'opération, qui crée la catastrophe, en paye aussi le prix. Tout le monde en paye le prix. Et aujourd'hui, on est en train de discuter alors de ça aux Nations Unies, à Genève, en ce moment même, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'objets en orbite, de plus en plus de débris, et que ça crée une situation où la coexistence devient de plus en plus compliquée. Mmh. Or, on est tous interdépendants. Donc ça, c'est un vrai sujet.
Donc l'espace pourrait réellement devenir finalement un nouveau terrain de guerre. Alors la France avait, s'était dotée il y a 3 ans hein, d'un commandement militaire de l'espace. Ce sont des sujets, ce type d'attaque, la riposte, la protection des satellites sur lesquels travaille la France aujourd'hui.
Oui, absolument. Absolument. Il y a eu aussi, en parallèle de la création du commandement de l'espace, une stratégie spatiale de défense qui a été publiée, qui est accessible, et qui explique précisément qu'on est dans un contexte où l'environnement spatial devient de plus en plus incertain, parce qu'il y a de plus en plus d'objets, de plus en plus de débris, donc des risques, des menaces, au moment même où on dépend de cet environnement de plus en plus. Donc une espèce d'effet de ciseau, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, les militaires sont très, très attentifs, on va dire, à tous ces développements, pas seulement militaires, d'ailleurs, au sens large, industriels, civils, commerciaux. Et ce sont des scénarios qui sont étudiés aujourd'hui pour protéger, on va dire, les moyens.
Et en tout cas, les États-Unis n'ont pas tardé à réagir hein, après la menace de Moscou promettant une réponse appropriée. Ça veut dire quand même que cette menace, elle est jugée crédible.
Oui, elle est jugée crédible et les États-Unis appliquent un peu. Alors, ils ont une doctrine de dissuasion spatiale. Ils essayent de dissuader l'adversaire de prendre ce type de mesures parce qu'ils expliquent qu'il y aura des rétorsions hein, qui seront absolument catastrophiques pour l'attaquant. Donc là, on voit monter une rhétorique dans le spatial en général. Indépendamment même du conflit ukrainien, on voit depuis quelques années monter une tension qui, pour l'instant, reste essentiellement diplomatique voilà. Plutôt que militaire.
Une tension donc dans l'espace et la crainte de l'escalade donc d'un conflit spatial. Merci Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée à vous.
Merci.
RTL Soir se poursuit dans un instant au tribunal et avec de quoi vous occuper si vous êtes peut-être dans les bouchons sur la route des vacances, les dessous de l'actu et laissez-vous tenter dernière à suivre. À tout de suite.
Marion Calais, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL.
18h30.
Marion Calais.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
Et le rappel des grands titres de l'actualité avec vous, Vincent Derosier.
Et des activistes du mouvement Dernière Rénovation bloquent en ce moment l'autoroute A6. Simon Marseille, on vous retrouve du côté d'Arcueil dans le Val-de-Marne.
Oui, ils sont 7 militants assis sur l'asphalte. Ils bloquent depuis une trentaine de minutes maintenant l'autoroute en direction du sud. Alors, régulièrement, des automobilistes descendent de leur véhicule pour traîner les militants sur le bord de la route, lesquels se laissent faire hein, sans réagir. J'ai un avion à prendre dans 10 minutes, s'énerve une conductrice. D'autres prétextent des des rendez-vous médicaux pour tenter de passer. Les plus chanceux, ce sont les motards qui se faufilent entre les activistes et la police vient à l'instant d'arriver sur place pour les déloger éventuellement.
Simon Marseille sur la 6 pour RTL. Conséquence de la crise des carburants, des intoxications à l'essence multipliée par 5 après des siphonnages ratés. En cas d'intoxication, appelez un centre anti-poison, rincez-vous la bouche, mais ne vomissez pas et ne buvez pas. Enfin, allez les Bleus, France-Italie, quart de finale du mondial de rugby féminin, c'est cette nuit à 5h30 et c'est en Nouvelle-Zélande.
Merci Vincent de Rosier. La météo, Valérie Quintin, du soleil encore demain ?
Ouais, c'est le printemps, figurez-vous, encore une fois, pour tout le week-end. Demain, du soleil partout, un ciel tout bleu même des Alpes à la Méditerranée, soleil un peu voilé pour le reste du pays, quelques averses sur la pointe bretonne et des températures qui restent élevées, 23 degrés dans l'après-midi à Rouen et à Metz, 24 à Paris et Nantes, 25 à Lyon et Ajaccio, 27 degrés à Limoges, 30 degrés à Tarbes, ce sera exactement la même chose dimanche.
Voilà, et à la clé sans doute un mois d'octobre le plus chaud
oui,
jamais
cette fois on y est, je
enregistré
pense.
De l'histoire.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Les dessous de l'actu, les dessous ce soir du quotidien des magistrats. Après le témoignage ce matin sur RTL de la procureure de la République de Versailles qui décrivait notamment des ordinateurs qui mettent une demi-heure à s'allumer le matin. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
On en est encore là aujourd'hui dans les tribunaux.
Malheureusement, oui, il y a encore des ordinateurs qui sont complètement hors d'âge. Les magistrats travaillent sur un traitement de texte qui les rend fous. Un traitement de texte complètement obsolète qui n'est utilisé nulle part en France, à part par la justice. Mais le pire est sans doute Cassiopée, le logiciel de gestion de la chaîne pénale et ses bugs à répétition qui sont une blague sans fin. Une juge me disait tout à l'heure que Cassiopée sera encore en maintenance quand on marchera sur Mars. Et pourtant, depuis des années, la chancellerie veut faire de la transformation numérique une priorité. Mais on est plus sur un rattrapage qu'autre chose. Ce sont les mots de la Cour des comptes très sévères sur le sujet. L'exemple criant, c'est le projet Portalis, censé dématérialiser toute la procédure civile. En 2013, quand il a été lancé, son coût était estimé à 28 millions d'euros. Il pourrait désormais atteindre les 80 millions. Et aujourd'hui, il est au point mort. Impossible de dire quand ce projet, sur lequel on misait beaucoup pour aider les magistrats, sera opérationnel.
Donc du matériel, des logiciels obsolètes et des bras qui manquent aussi, Cindy.
Oui, il suffit de faire un tour aux audiences de rentrée. Je l'ai fait récemment pour voir que le compte n'y est pas. Montpellier, Cahors, Brest, je pourrais continuer un moment. Les tribunaux coulent. À Bobigny, au tribunal pour enfants, c'est le plus grand tribunal pour enfants de France. Les audiences collégiales sont tout bonnement annulées jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas assez de greffiers. 9 postes sur 18 sont vacants.
Alors, des moyens supplémentaires ont été annoncés. Le budget de la justice va continuer d'augmenter. Sauf qu'en attendant, Cindy, ces difficultés actuelles, elles ont déjà des conséquences très concrètes dans certains dossiers.
Oui, parfois, la justice a été tellement lente que les procédures sont annulées. Il n'y a plus de poursuites. C'est le cas d'une enquête qui avait débuté en 2000 en Seine-Saint-Denis et qui n'avait toujours pas été audiencée. 22 ans donc sans procès. Le tribunal a estimé qu'on ne pouvait plus parler de délai raisonnable. C'est un euphémisme. Alors heureusement, cela reste rare. Par contre, des milliers d'affaires bouclées depuis plusieurs années n'ont toujours pas de date de procès. Des dossiers qui prennent la poussière sur des étagères, faute de salles et faute de bras, encore une fois.
Les dessous de l'actu, les dessous d'une justice en souffrance. Cindy Hubert, merci.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et en ce week-end de chassé-croisée, départ en vacances et retour pour certains, pourquoi ne pas glisser un peu de musique dans l'autoradio pour occuper les enfants, pour ceux qui ont un autoradio. Bonsoir Laurent Marsic.
Ça existe encore,
mais oui, ça existe encore. Cela faisait près de 10 ans qu'il n'avait plus pointé son nez dans les bacs. Lui, c'est Pitocha, un drôle de petit personnage créé par le groupe Les Ogres de Barbac.
Pitocha, c'est un enfant de la balle, c'est le chapiteau à l'envers. C'est celui qui jongle avec la musique et nos émotions. Le dernier album remontait à 2013, et puis quelque chose a tout fait basculer, raconte Fred, le chanteur des Ogres.
C'était pas du tout prévu de faire un quatrième. Et puis après, il y a eu une chanson qui a tout changé. Cette chanson ça s'appelle Je ne sais pas moi. Et comme c'était une chanson qui allait très très bien sur Pitocha, on s'est dit, allez, on en fait un quatrième. Et on est très content de l'avoir.
Est-ce que les castors cassent de l'or ? Est-ce que les vaches entre elles sont vaches ? Est-ce que le loup a peur du loup ?
Vous voyez les questions un peu des enfants, hein, c'est je ne sais pas. Ouais. Les ogres de Barbac et leurs invités explorent des thèmes comme l'exil, la famille, les papas, ça c'est chouette, le bonheur et l'écologie, comme ici avec Aldebert.
Vous faisiez la sonde oreille lorsque nous chantions à tue-tête de laisser les abeilles butiner sur la planète. Le verdict est tendu, c'est pour l'éternité.
Et parfois, il y a des sujets plus durs. Le Bataclan en 2015. Et pourquoi ne pas parler de cette violence aussi aux enfants, martèle encore Fred, le chanteur des Ogres.
Quand on écrit nos chansons pour le Pitochat, on s'est toujours dit qu'on n'allait pas forcément se mettre dans une situation où on veut écrire pour les enfants.
On vit, c'était un jour dingue. On vit des éclairs, des larmes et du sang. Des enfants vidaient leurs flingues.
Vivre, c'est encore Juliette qui chante un tango endiablé, une battle de voisins, Charlie Couture qui rend hommage aussi au papa qui repasse et qui font la cuisine.
Alors, ce livre disque, c'est un projet global aussi, puisqu'une tournée sous chapiteau est prévue.
Oui, dès le printemps, et pour 2 ans, il y a une vraie sincérité et une vraie liberté, sûrement due au fait qu'ils travaillent tous comme des artisans en toute indépendance.
On est nous-mêmes et on bosse nous-mêmes dans notre studio en Ardèche. Nous, on se considère comme des artisans. Et peut-être que justement, en étant artisans, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes, quoi.
Cette histoire ne m'en déplaise, c'est moi qui...
Il y a du beau monde, hein ?
Exactement, indépendant et crampouni à la terre, on pourrait dire. Comme le chant Francis Cabrel en ce moment avec Camille Burguière. Et toutes ces chansons s'ajoutent aussi un joli conte musical, une histoire lue par Ariane Ascaride, Pitochat et le vélo à propulsion phonique par les ogres de Barbac. Régalez-vous, achetez-le, partagez-le, allez les voir aussi.
Voilà. C'est très agréable à écouter et à regarder aussi, puisque quand vous venez,
très joli dessin.
Laurent Marcy, qui a toujours de très jolis livres qui sentent bon le livre neuf.
Eh bien,
merci Laurent Marcy, Pitochat, le vélo à propulsion phonique. 18h37 sur RTL. On va se retrouver dans un instant pour refaire nos régions avec une entreprise de Cholet qui chouchoute ses salariés et puis avec aussi des radars pour suivre les oiseaux migrateurs. Le principe est sympa, mais ça fait polémique. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.